Anatole France, Marcel aux yeux d'or, 1885. J'avais 5 ans et une idée du monde que j'ai dû changer depuis, et c'est dommage, car elle était charmante. Un jour, tandis que j'étais occupé à dessiner des bonshommes, ma mère m'appela sans songer qu'elle me dérangeait. Les mères sont de ces étourderies. Cette fois, il s'agissait de me faire ma toilette. Oh, je n'en sentais pas la nécessité et j'en voyais le désagrément. Je résistais, je faisais des grimaces, c'était insupportable. Ma mère me dit « Ah, ta marraine va venir, ce serait joli si tu n'étais pas habillé. » Ma marraine ? Je ne l'avais pas encore vue. Je ne la connaissais pas du tout. Je ne savais rien, même pas qu'elle existât. Mais je savais très bien ce que c'est qu'une marraine. Je l'avais lue dans les contes et vue dans les images. Je savais qu'une marraine est une fée. Alors je me laissais peigner et savonner tant qu'il put à ma chère maman. Je songeais à ma marraine avec une extrême curiosité de la connaître. Mais bien que grand questionneur d'ordinaire, je ne demandais rien du tout, ce que je brûlais de savoir. Et pourquoi ? Ah, vous me demandez pourquoi ? Ben, ce que je n'osais, c'est que les fées, telles que je les comprenais, voulaient le silence et le mystère. C'est qu'il est dans les sentiments un vague si pieux que l'âme la plus neuve de ce monde est par instinct jalouse de le garder. C'est qu'il existe pour l'enfant comme pour l'homme des choses ineffables. C'est que, sans l'avoir connue, j'aimais ma marraine. Oh, je vais bien vous surprendre, mais la vérité a parfois heureusement quelque chose d'imprévu qui la rend supportable. Ma marraine était belle à souhait. Quand je la vis, je la reconnus. C'était bien elle que j'attendais, c'était ma fée. Je contemplais sans surprise, ravi. Pour cette fois, et par extraordinaire, la nature égalait les rêves de beauté d'un petit enfant. Ma marraine me regarda. Elle avait des yeux d'or. Elle me sourit et je lui vis des dents aussi petites que les miennes. Elle parla. Sa voix était calme, claire et chantait comme une source dans les bois. Elle me baisa. Ses lèvres étaient fraîches. Je le sens encore sur ma joue. Je goûtais à la voir une infinie douceur. Et il fallait, paraît-il, que cette rencontre fut charmante de tout point, car ce souvenir qui m'en reste est dégagé de tout détail qui lui était gâté. Il a pris une simplicité lumineuse. C'est la bouche entr'ouverte par un sourire ou pour un baiser, debout, les bras ouverts, qui m'apparaît invariablement ma marraine. Elle me souleva de terre et me dit « Trésor, laisse-moi voir la couleur de tes yeux. » Puis, agitant les boucles de ma chevelure, « Il est blond, mais il deviendra brun. » Ma fée connaissait l'avenir. Pourtant, ses prédictions d'indulgence n'annonçaient point tout entier. Mes cheveux, aujourd'hui, ne sont plus ni blonds ni noirs. Elle m'envoya le lendemain des joujoux qui ne me parurent pas faits pour moi. Moi, je vivais avec mes livres, mes images, mon pot de colle, mes boîtes de couleurs et tout mon attirail de petit garçon intelligent et chétif, déjà sédentaire, qui s'initiait naïvement par ses jouets à ce sentiment de forme et de couleur, cause de tant de douleur et de joie. Et les présents choisis par ma marraine n'entrait point dans ses mœurs. C'était un mobilier complet de sport boy et de petites gymnastes. Trapèze, cordes, barres, poids, haltères, tout ce qu'il faut pour exercer la force d'un enfant et préparer la grâce virile. Par malheur, j'avais déjà le pli du bureau, le goût des coupures faites patiemment un soir à la lampe, le sens profond des images. Et quand je sortais de mes amusements d'artiste prédestiné, c'était par des coups de folie, par une rage de désordre, pour jouer éperdument à des jeux sans règles, sans rythme, sans valeur, aux voleurs, aux naufrages, à l'incendie. Tous ces appareils de bruit verni et de fer me parurent froids, lourds, sans caprice et sans âme, jusqu'à ce que ma marraine eût mis, en m'en enseignant l'usage, un peu de son charme. Elle soulevait les haltères avec beaucoup de crânerie, et portant les coudes en arrière, elle me montrait comment les barres passées sur le dos et sous les bras développent la poitrine. Ce jour-là, elle me prit sur ses genoux et me promit un bateau avec tous ses agréments, toutes ses voiles et des canons aux abords. Ma marraine parlait marine comme un loup de mer. Elle n'oubliait ni une ni dunette, ni auban, ni perroquet, ni cacatois. Elle n'en finissait point avec des mots étranges qu'elle mettait comme de l'amitié à se les dire. Il lui rappelait sans doute bien des choses. Une fée, cela vu sur les eaux. Et je ne l'ai pas reçu, ce bateau. Mais j'ai jamais eu besoin de lui, même au bel âge, de posséder des choses pour en jouir. Et le bateau de la fée a occupé bien des heures. Je le voyais, oh, je le vois encore, mais ce n'est plus un jouet, c'est un fantôme. Il coule en silence sur une mer brumeuse, et j'aperçois sur son bord une femme immobile, les bras inertes, les yeux grands et vides. Et je ne devais plus revoir ma marraine. Mais j'avais alors une idée juste de son caractère. Je sentais qu'elle était née pour plaire et pour aimer, que c'était là son affaire dans ce monde. Je ne me trompais pas, hélas. J'ai su depuis que Marcel, oui, elle se nommait Marcel, n'a jamais fait que cela. C'est bien des années plus tard que j'appris quelque chose de sa vie. Marcel et ma mère s'étaient connus au couvent. Mais ma mère, plus âgée de quelques années, était trop sage et trop mesurée pour devenir la compagne assidue de Marcel, qui mettait dans ses amitiés une ardeur extraordinaire et une sorte de folie. La jeune pensionnaire qui inspira à Marcel les sentiments les plus extravagants était la fille d'un négociant, une grosse personne, calme, moqueuse et bornée. Marcel ne la quittait pas des yeux, fondait en larmes pour un mot, pour un geste de son ami, l'accablait de serments, lui faisait toutes les heures des scènes de jalousie et lui écrivait à l'étude des lettres de 20 pages. Tant qu'enfin la grosse fille, impatientée, déclara qu'elle avait assez et qu'elle voulait vivre être tranquille. Et la pauvre Marcel se retira si battue et si triste qu'elle fit pitié à ma mère. C'est alors que commença leur liaison, au peu de temps avant que ma mère sortît du couvent. Elles promirent de se rendre visite et tinrent parole. Marcel avait pour père le meilleur des hommes du monde, charmant, avait bien de l'esprit, et pas le sens commun. Il quitta la marine sans motif après 20 ans de navigation. On s'en étonnait. Il fallait s'étonner qu'il fût resté si longtemps au service. Sa fortune était médiocre et son économie détestable. Regardant par sa fenêtre un jour de pluie, il vit sa femme et sa fille à pied, fort embarrassés de leurs jupes et de leur entouka. Il s'aperçut pour la première fois qu'elle n'avait point de voiture. Et cette découverte le chagrina beaucoup. Sur le champ, il réalisa ses valeurs, vendit les bijoux de sa femme, emprunta de l'argent à divers amis et courut à Bade. Et comme il avait une martingale infaillible, il joua gros jeu à l'effet de gagner chevaux, carrosses et livrées. Et au bout de 8 jours, il rentra chez lui sans un sou et croyant plus que jamais à sa martingale. Il lui restait une petite terre dans la Brie où il éleva des ananas. Après 1 an de cette culture, il dut vendre le fond pour payer les serres. Alors il se jeta dans des inventions de machines et sa femme mourut sans qu'il y prît garde. Il envoyait aux ministres, aux chambres, à l'institut, aux sociétés savantes, à tout le monde, des plans et des mémoires. Ces mémoires étaient quelquefois rédigées en vers. Pourtant, il avait quelque argent, il vivait. C'était miraculeux. Marcel trouvait cela simple et achetait des chapeaux avec toutes les pièces de 100 sous qui tombaient sous la main. Pour jeune fille qu'elle était alors, ma mère ne comprenait pas la vie de cette façon. Et Marcel la faisait trembler. Mais elle aimait Marcel. « Si tu savais, » m'a dit 100 fois ma mère, « si tu savais comme elle était charmante alors. » « Oh, mes chères mamans, je l'imagine bien. » Il y eut pourtant une brouille entre elles, et la cause en fut un sentiment délicat qu'il ne faudrait point laisser dans l'ombre où l'on cache les fautes de ceux qui vous sont chers, mais que je ne dois pas analyser, moi, comme tout autre pourrait le faire. Je ne dois pas, dis-je, je ne le puis pas non plus, n'ayant sur ce sujet que des indices extrêmement vagues. Ma mère était alors fiancée à un jeune médecin qu'il épousa peu après et devint mon père. Marcel était charmante, on vous l'a dit assez. Elle aspirait et respirait l'amour. Mon père était jeune, il se voyait, se parlait, que sais-je encore. Ma mère se maria et ne revit plus Marcel. Mais après 2 ans d'exil, la belle aux yeux d'or eut son pardon. Elle l'eut si bien qu'on la pria d'être ma marraine. Dans l'intervalle, elle s'était mariée. Cela, je pense, avait beaucoup aidé au raccommodement. Marcel adorait son mari, un monstre de petit moricaud qui naviguait depuis l'âge de 7 ans sur un navire de commerce, et que je soupçonne véhémentement d'avoir fait la traite des Noirs. Comme il possédait des biens à Rio de Janeiro, il emmena ma marraine. Ma mère m'a dit souvent, « Tu peux pas te figurer ce qu'était le mari de Marcel, un magot, un singe habillé de jaune clair, des pieds à la tête. Il ne parlait aucune langue, il savait seulement un peu de toutes et s'exprimait par des cris, des gestes et des roulements d'yeux. Pour être juste, il avait des yeux superbes. « Oh, je ne crois pas, mon enfant, qu'il y ait des lits aujourd'hui, » ajoutait ma mère. « Je Bon, pas qu'il fût des îles, non. Il était français, natif de Brest, et se nommait Dupont. Il faut vous apprendre en passant que ma mère disait des îles pour tout ce qui n'est pas l'Europe. Et cela désespérait mon père, auteur de divers travaux d'ethnographie comparée. Marcel, poursuivait ma mère, Marcel était folle de son mari. Dès les premiers temps, on avait toujours l'air de les gêner quand on allait les voir. Elle fut heureuse pendant 3 ou 4 ans. Je dis heureuse, parce qu'il faut tenir compte des goûts. Mais pendant le voyage qu'elle en fit en France, oh, tu ne te rappelles pas, tu étais trop petit. Oh, mais si, maman, je me rappelle parfaitement. Eh bien, pendant ce voyage, son moricaud prit là-bas, dans les îles, d'horribles habitudes. Il s'enivrait dans les cabarets de matelots avec des créatures. Alors il reçut un coup de couteau. Et au premier avis qu'elle en eut, Marcel s'embarqua. Elle soigna son mari avec cette fureur magnifique qu'elle mettait à tout. Mais il eut un vomissement de sang et mourut. Mais Marcel, n'est-elle pas revenue en France? Maman, pourquoi n'ai-je pas revu ma marraine? À cette question, ma mère répondit avec embarras. Ben, étant veuve, elle connut à Rio de Janeiro des officiers de marine qui lui firent grand tort. Oh, il ne faut pas penser du mal de Marcel, mon enfant. C'était une femme à part. Il n'agissait pas comme les autres. Mais il devenait difficile de la recevoir. Maman, je ne pense pas du mal de Marcel. Dites-moi seulement ce qu'elle est devenue, mon fils. Un lieutenant de vaisseau l'aima, ce qui était bien naturel. Elle a compromis parce qu'une si belle conquête flattait son amour-propre. Je ne te le nommerai pas. Il est aujourd'hui contre-amiral et tu as dîné plusieurs fois avec lui. Quoi? C'est V, ce gros homme rougeau? Eh bien, il raconte de jolies histoires de femmes après dîner dans le fumoir. Cet amiral-là, maman. Mais Marcel l'aima à la folie. Elle le suivait partout. Tu conçois, mon enfant, que je ne sais pas très bien cette histoire-là. Mais elle finit d'une façon terrible. Ils étaient tous les deux en Amérique, je puis te dire exactement en quel endroit, parce que je n'ai jamais pu retenir les noms de géographie. S'étant lassé d'elle, il la quitta sous quelque prétexte et revint en France. Et tandis qu'elle l'attendait dans les îles, elle apprit par un petit journal de Paris qu'il se montrait au théâtre avec une actrice. Elle n'y put tenir, et bien que souffrant de la fièvre, elle s'embarqua. Ce fut son dernier voyage. Elle mourut à bord, mon enfant. Et ta pauvre marraine, cousue dans un drap, fut jetée à la mer. Je n'en sais pas davantage, mais chaque fois que le ciel est d'un gris tendre et que le vent a des plaines douces, ma pensée s'envole vers Marcel et je lui dis, pauvre âme en peine. Pauvre âme errant sur l'antique océan qui berça les premières amours de la terre. Cher fantôme, ma marraine et ma fée, sois bénie par le plus fidèle de tes amoureux, par le seul peut-être qui se souvienne encore de toi. Sois bénie pour le don que tu mis sur mon berceau en s'y penchant seulement. Sois béni pour m'avoir révélé, quand je naissais à peine, la pensée, les tourments délicieux que la beauté dans nos âmes avide de la comprendre. Sois béni par celui qui fut l'enfant que tu soulevas de terre pour chercher la couleur de ses yeux. Il fut cet enfant le plus heureux, et j'ose dire, le meilleur des amants. C'est à lui que tu donnas le plus aux généreuses femmes, car lui ouvrit avec les deux bras, tu lui ouvris le monde infini des rêves.